Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel, troisième cassette, première face, page 59. Chapitre 4. Théodule Résidore. Théodule, c'est le prénom, T-H-E accent aigu O-D-U-L-E, Résidore, le nom de famille, R-E-S-I-D-O-R-E. Gaspard Fontarelle ne cherchait pas à comprendre par quelle suite de hasard il se trouvait sur les traces de son ami, l'enfant fugitif. Il osa dire au coiffeur : « Si je comprends bien, monsieur Besmin, vous aussi, vous êtes un original. » « Je suis peut-être un original, mais laissez-moi vous conter l'histoire, » répondit monsieur Besmin. Il avait enveloppé Gaspard d'un peignoir, et tandis qu'il taillait ses cheveux en faisant exécuter d'éclatantes acrobaties à ses ciseaux, il dit comment, un beau matin, une voiture de belle apparence s'était arrêtée devant sa boutique. Deux hommes et un enfant étaient descendus. L'enfant avait les cheveux en broussailles et souillés de poussière, et certainement un coup de peigne n'était pas inutile. Les deux hommes s'étaient assis au fond de l'officine, tandis que M. Besmin coiffait l'enfant. Dès que le coiffeur l'eut installé, l'enfant se mit à lui parler à voix basse. « Écoutez-moi, monsieur, ne faites pas semblant de rien. Je vous parle à tout hasard. Il faut que je me sauve. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous trouverez un prétexte et vous ne me retiendrez pas. Personne ne veut me comprendre. Il faut que je cherche ma famille et mon pays. » Ces hommes ne sont pas mes parents. Faites ce que je vous demande. Vous ne risquez rien. Vous aurez fait une bonne action. Si vous voulez, n'allez pas ouvrir la porte. Je l'ouvrirai, mais ne me retenez pas. Je vous en supplie. Monsieur Besmin s'était penché vers l'enfant, tandis qu'il commençait à le savonner. Il fut assez étonné pour se trouver contraint d'écouter sans mot dire. La voix de l'enfant était si douce et si persuasive que le coiffeur aurait peut-être cédé à une demande aussi extraordinaire, mais l'un des hommes s'était avancé. Il frappa sur l'épaule de M. Besmin, qui eut un violent sursaut. « Je dois vous prévenir que cet enfant compte des mensonges à qui veut l'entendre. Il cherche tous les moyens pour s'enfuir. Nous devons vous mettre au courant. Quoique nous soyons des étrangers, nous n'aimons pas qu'on dise du mal de nous. » C'était M. Parpoil qui avait parlé. M. Drapeur était demeuré assis. Il fit observer qu'il ne lui semblait pas nécessaire de donner des explications et que l'enfant resterait bien sagement où il était. M. Parpoil se tourna vers M. Drapeur. Il s'est déjà sauvé de cette façon quand nous étions à Anvers dans un magasin. Il a réussi à se faire passer pour un enfant volé et il a profité pour nous échapper du désarroi qu'il avait causé parmi les clients du magasin. « Il n'y a ici personne que nous, » objectait M. Drapeur. « Et des clients peuvent venir. Si M. Besmin se laissait convaincre, « Je suis prêt à vous écouter, » dit M. Besmin.
« C'est bien inutile, » disait M. Drapeur.
M. Parpoil s'était présenté. Il avait compté qu'il avait l'honneur d'être le secrétaire de M. Drapeur et que celui-ci était un marchand de diamants, mais qu'il avait aussi une grande célébrité comme amateur d'œuvres d'art. M. Drapeur possédait un château dans les environs d'Anvers et il allait prochainement partir en croisière sur son yacht. Ceci dit, conclut M. Parpoil, pour que vous jugiez combien il pourrait être ennuyeux pour vous d'avoir des démêlés avec M. Drapeur. M. Drapeur s'était levé.
« Je regrette, Jacques, mais vos paroles me semblent un peu insolentes. La vérité, M. Besmin, c'est que j'aime mon enfant et que je suis désolé qu'il ait résolu de s'enfuir. On dit que certains enfants sont sujets à des fugues et depuis un an, celui-ci fait tentative sur tentative. Il a dernièrement traversé toute la Belgique.
Il prétend chercher sa famille et son pays, ne put se garder de dire Monsieur Besmin.
Il n'a pas d'autre famille que moi qui suis son oncle, répondit Monsieur Drapeur, et pas d'autre pays qu'Anvers.
Il était impossible de ne pas ajouter foi aux paroles des deux hommes. L'auto magnifique qui stationnait devant la porte témoignait de leur fortune. Comme M. Besmin le dit à Gaspard, il n'aurait certainement pas retenu l'enfant si celui-ci avait voulu se sauver, mais après les explications qui venaient de lui être données, il eut craint de prendre une trop grave responsabilité. Mais comprenez-vous pourquoi il veut se sauver ? Demanda Gaspard.
Je n'y comprends rien, assurait le coiffeur. C'est un vrai mystère. Car il possède tout ce qui fait le bonheur d'un enfant. Mais il a certainement une bonne raison pour agir avec tant d'obstination, j'en jurerais. Bref, je ne vous ai pas dit ce qui vous concerne, vous.
Comme M. Besmin achevait de peigner l'enfant, celui-ci avait prononcé encore quelques mots à voix basse, comme un message.
Écoutez, à l'homme aval, Gaspard Fontarel, mon ami.
Il n'avait pas eu le temps d'achever. Monsieur Parpoil était venu lui imposer silence.
Je n'ai pas pu entendre ce qu'il voulait vous faire savoir, dit Monsieur Besmin à Gaspard. Les deux hommes sont partis presque aussitôt avec l'enfant.
Lorsque j'ai appris ce matin que Mademoiselle Berlicot de Lhomme-Inval signalait la disparition de son neveu Gaspard Fontarel, j'ai supposé que vous cherchiez à rejoindre votre ami.
Lorsque je vous ai vu tout à l'heure, j'ai pensé que je pourrais vous aider.
J'ai quitté Lhomme-Inval sans le faire exprès, avoua Gaspard, et je dois retourner à Lhomme-Inval. Ma tante m'a toujours dit que je n'étais pas fait pour les aventures, et il n'y a rien de plus vrai. Mais je vous remercie de tout mon cœur, monsieur. Je n'ai même pas d'argent pour vous payer.
Cela n'est rien, assura le coiffeur en fronçant ses horribles sourcils. Je suis sûr que vous ne rentrerez pas à Lhomme-Inval.
Regardez, dit Gaspard, comme il quittait son fauteuil. Derrière la vitre de l'étalage, entre les flacons de parfum et les coiffures postiches, on apercevait deux visages qui épiaient.
C'est la voisine, la marchande de vaisselle, et son mari, dit Monsieur Besmin. Certainement, ils vont vous dénoncer, si ce n'est déjà fait. Ce sont des gens tatillons.
Si vous pouviez me faire échapper par la cour, dit Gaspard, au moins vous m'épargneriez la honte.
Certainement, je ne vous épargnerai aucune honte, répondit le coiffeur.
Monsieur Besmin regardait Gaspard Fontarel en faisant une affreuse grimace. Sa chevelure et ses sourcils avaient un air étrange qui fit frissonner Gaspard. Ses regards, cependant, gardaient comme une lointaine douceur.
« Vous vous êtes moqué de moi, dit Gaspard. Vous m'avez gardé ici jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. »
La douceur s'effaça des regards de M. Besmin.
« Je suis persuadé que vous ne retournerez pas à Lhomme-Inval. » Quelque chose va se passer, je ne sais quoi encore. Votre cheval, qui vous a signalé à l'attention, n'est pas un cheval comme les autres. Il est capable de vous conduire au bout du monde.
Les visages s'étaient éloignés de la vitrine, mais on voyait le marchand et la marchande de vaisselle qui discutaient. Le cheval pie s'était avancé dans la rue.
Je ne monterai plus sur ce cheval, dit Gaspard. Et comment pourrais-je gagner Anvers sans être arrêté en route? Même si j'allais là-bas, qu'est-ce que je ferais?
Écoutez-moi bien, murmura M. Besmin. Je ne cherche qu'à vous dire des paroles secourables. Alors retenez bien ceci. Si vous avez quelque ennui, gagnez les environs de Vireux. Sur la route qui va de Fumet à Vireux, interrogez les passants. Il se trouvera certainement quelqu'un pour vous indiquer où demeure Théodule Rosidor. Répétez ce nom,
Théodule Rosidor vous viendra en aide, quoi que ce soit que vous désiriez. Et maintenant, au revoir, mon ami. Tâchez de retourner à Lominval. » Il y eut dans les yeux du coiffeur un éclat singulier. Ses sourcils se froncèrent. Gaspard le remercia et lui dit adieu en tremblant. Il ouvrit la porte de la boutique. Gaspard n'avait pas mis le pied sur le trottoir qu'il entendit un fracas considérable. Aussitôt, il aperçut le cheval qui ruait dans la vitrine du magasin de vaisselle. La vitrine volait en éclats et les assiettes empilées formaient des gerbes de miettes comme un feu d'artifice. Le marchand et la marchande s'efforçaient en vain d'apaiser la bête. Le marchand criait « C'est ce garçon de Lominval, il nous le paiera. C'est à lui ce dernier cheval. Il ne pourra pas dire le contraire. » Gaspard demeurait sur le seuil de la boutique, incapable de faire un mouvement, ne sachant s'il devait sortir ou rentrer, lorsqu'il entendit derrière lui le rire grave de M. Besme. Ce rire était à la fois amical et cruel. Gaspard en éprouva une honte nouvelle et s'enfuit terrifié, comme déjà les badauds arrivaient de toutes parts. Il pénétra dans la cour voisine, sauta le mur et se trouva au fond d'une ruelle. Encore une catastrophe, murmurait Gaspard. Que me reste-t-il à faire? Si je retourne à Lominval, je dois m'attendre à une triste réception. Gaspard perçut le bruit d'un galop joyeux et sauvage, puis une grande clameur poussée par les gens assemblés, des voix enfin qui parlaient de la gendarmerie. Dans cette situation inextricable, Gaspard ne songea plus qu'à fuir. Il ressentait un irrésistible désir de gagner la forêt, sans aucun espoir d'ailleurs d'échapper aux conséquences de son aventure. Ce n'était pas seulement la peur, mais un élan qu'il n'aurait pas pu maîtriser pour retrouver, ne fût-ce que quelques instants, la paix profonde de la forêt. Il se trouvait dans le faubourg. La ruelle aboutissait à un sentier qui traversait des jardins, une prairie et débouchait sur la route. De l'autre côté de la route, c'était la forêt. Dans cette région, les villes sont bâties sur de vastes clairières, mais sur certains côtés, les bois touchent à la ville. Du fond des rues, on entend les tourterelles, et la nuit, on peut percevoir les trouées que font les sangliers dans le feuillage pour venir jusqu'aux champs de blé ou de pommes de terre. On entend glapir les renards. En ce lieu, les taillis dévalaient un escarpement. Gaspard se jeta à travers les hauts sénessons et les ronces de la lisière. Il grimpa dans les taillis et arriva bientôt hors d'haleine sur un plateau coupé de vallonnements où les futaies étendaient leurs ombres à l'infini. Après avoir traversé des bois d'acacia clairsemés, il s'engagea dans un fourré. Il était comme aveuglé par le sang qui frappait dans son cœur et dans sa tête. Malgré son épuisement, il fonça au milieu des épines. Les arbrisseaux étaient si serrés qu'il crut à un moment qu'il ne pourrait ni avancer ni reculer. Il ne comprit pas lui-même comment il réussit à pénétrer, et soudain, il se trouva comme dans une véritable cave sous une voûte de feuillage bas. Le lierre couvrait le sol et grimpait après de jeunes charmes et des sortes de saules. Gaspard gagna une fondrière, au fond de laquelle s'inscrivait une piste de chevreuil entre quelques brins de millet. Il n'aurait pas pu faire un pas de plus. Il tomba sur les genoux et s'étendit de tout son long. À 15 ans, un enfant est prêt à engager une responsabilité d'homme. Toutefois, il reste attaché à des idées ignorées de tous et de lui-même. Gaspard avait besoin de songer en paix à son ami d'Anvers, qui n'avait vraiment aucun moyen de rejoindre, et sans doute à ce moment-là, il s'imaginait près de mourir. Il fit une prière que personne ne pourra jamais vous rapporter exactement. Et ce fut en priant qu'il s'endormit, la tête sur la mousse. Quand il se réveilla, il n'avait aucune idée de l'heure. La lumière n'avait pas changé dans le sous-bois. Il se leva et s'apprêta à regagner les acacias clairsemés. De là, en suivant les futaies, il chercherait un chemin et il tâcherait de gagner quelques hameaux où il se procurerait de quoi manger, après quoi il rentrerait dans la forêt. Il ne se demandait pas ce qu'il ferait. Il ne désirait que rester dans les bois le plus longtemps possible et retarder l'heure des explications et des remontrances. Il croyait encore entendre le bruit de la vaisselle cassée qui avait mis le comble à ses ennuis. Le hasard se joua de ses projets. Il ne parvint pas à regagner le bois d'acacia, mais tourna en rond dans le taillis serré dont il ne sortit qu'une heure plus tard. Il parvint à des futaies de chêne. Dans une clairière, il tenta de s'orienter. Le soleil était encore haut dans le ciel. Il prit un sentier qui allait vers le nord et longeait les hauteurs. Bientôt, il aperçut de nouveau la grand-route entre les arbres. De l'autre côté de la route, c'était la ligne de chemin de fer et la Meuse, après quoi la forêt recommençait. Il marcha sur les crêtes pendant une heure. La faim le tiraillait de plus en plus. Il fut soudain saisi par une atroce crampe d'estomac. Il se coucha sur le dos pendant quelques instants, puis il reprit sa marche. Il n'avait pas fait 200 pas que la crampe le reprenait. Il se coucha encore, puis repartit. C'était sûr qu'il ne pourrait pas tenir s'il ne trouvait pas bientôt de quoi manger. Il descendit vers la route. Sur l'asphalte, il se sentit un peu mieux. Des autos passèrent, puis des bicyclettes. Un cantonnier revenait de son travail, la pelle sur l'épaule. Gaspard avançait, en fermant à demi les yeux. « Imaginons, se dit-il, que je fais une course au pays voisin pour l'hôtel du Grand Cerf. » Puis il entendit derrière lui le grondement d'un orage qui lui rappela cette course folle de la veille. Il se tourna et aperçut à l'horizon du sud, entre les escarpements des forêts, de lointains nuages noirs. Quand il regarda de nouveau devant lui, il vit venir deux gendarmes sur leur bicyclette. Les gendarmes passèrent sans prêter aucune attention à Gaspard. Quand ils eurent fait une cinquantaine de pas, ils s'arrêtèrent brusquement. Gaspard entendit leurs freins. Il n'était pas question de fuir. Au lieu de continuer son chemin, Gaspard fit demi-tour et se dirigea vers les gendarmes. L'orage grondait toujours. La bordure d'un nuage s'illumina d'un éclair qui se perdit étrangement dans l'éclat du ciel bleu. Ce fut presque sans penser que Gaspard dit « Bonsoir, messieurs. Pourriez-vous m'indiquer où habite M. Théodule Rosidor ?»«
Théodule Rosidor ? Mais parfaitement ! Vous prenez le premier chemin à gauche, c'est beaucoup plus court que si vous passiez par Vireux. Mais faites bien attention, ajouta l'autre gendarme. Quand vous aurez monté la côte par ce chemin, vous arriverez à un carrefour où le chemin file sur la droite. Ne prenez pas sur la droite, mais allez tout droit dans le sentier qui prolonge le chemin. Vous entendez, au carrefour, c'est le sentier qui prolonge le chemin.
« Je vous remercie mille fois, messieurs, » dit Gaspard.
« C'est la moindre des choses, monsieur Théodule Rosidor. »
Le gendarme marmonna quelque chose que Gaspard ne comprit pas très bien, mais qui semblait exprimer la haute idée qu'on avait de monsieur Théodule Rosidor dans la région de Vireux. Il semblait que de prononcer ce seul nom avait plus de pouvoir que des papiers en règle ou un certificat de bonnes vies et mœurs. Gaspard salua et s'éloigna. Un quart d'heure plus tard, il avait trouvé le chemin et bientôt il parvint au carrefour où il prit le sentier à travers les bois. Il fut encore torturé par des crampes d'estomac et il dut se coucher plus d'une fois. Ce raccourci le conduisit jusqu'à un chemin bien empierré. Gaspard se demandait de quel côté il devait aller lorsqu'il aperçut vers la gauche une très grande clairière et au fond de la clairière, une maisonnette flanquée d'une grange. Il se dirigea vers la maisonnette. C'était une petite ferme qu'on avait restaurée. Elle prenait l'apparence d'un pavillon coquet. La porte de la grange, elle-même peinte en vert, gardait un air gracieux. Dans la cour, il y avait de la volaille en abondance. Vers la gauche s'élevaient des poulaillers aux grillages disposés avec élégance. Vers la droite, un hangar et une écurie dont la propreté minutieuse enchantait le regard. Un vieil homme tout courbé sortait du hangar. Il vint au devant de Gaspard. « Je désirerais parler à M. Théodule Résidor, s'il vous plaît. »
Le voici qui sort de la maison, justement.
La porte de la maison venait de s'ouvrir et sur le seuil se tenait un garçon d'une quinzaine d'années. Gaspard allait d'étonnement en étonnement. « C'est bien M. Théodule Résidor, s'il vous plaît. »«
C'est bien lui, assura l'homme. »
Gaspard s'avança jusqu'au perron, non sans examiner avec la plus grande curiosité ce garçon qui avait un corps malingre et un visage ingrat et sérieux. Des cheveux noirs en désordre, des regards indifférents et pleins d'astuces. Gaspard lui demanda s'il avait l'honneur de parler à M. Théodule Résidor. Le garçon s'inclina et le pria d'entrer. Gaspard pénétra dans une cuisine où il vit une grande cheminée de l'ancien temps et une table immense. Théodule Résidor le fit asseoir auprès de la fenêtre devant un petit guéridon.
« Je suppose que vous avez faim !»
dit-il à Gaspard. Il alla prendre une sonnette sur la cheminée et l'agita de toutes ses forces. « À quoi bon sonner avec tant de violence ?» songeait Gaspard. Presque aussitôt, par une porte ménagée au fond de la cuisine, parut une femme assez âgée et très vive, vêtue comme une paysanne. Elle regarda son jeune maître, puis le guéridon, et aussitôt, avec une rapidité singulière, elle alla prendre des œufs dans une armoire, alluma un réchaud et fit une omelette qui se trouva prête en quelques minutes.
« Mangez !»
dit Théodule. Gaspard dévora l'omelette. On lui apporta du fromage, des cerises, de la confiture, après quoi la servante lui demanda s'il avait assez mangé. « Je vous remercie, » dit Gaspard. Avant même que la femme eût disparu par la porte du fond, le jeune Théodule Résidor déclara.
« Ici, on ne demande d'explication à personne, et je ne chercherai pas à savoir qui vous a envoyé. Mais si vous avez besoin d'un service, nous vous aiderons. Pour que vous n'ayez aucune gêne, je veux d'abord vous faire comprendre dans quelle maison vous vous trouvez ?»
Le garçon avait une voix étrangement aiguë et Gaspard s'étonnait de son air un peu solennel.
« Mon père a des propriétés immenses !»
poursuivit Théodule Résidor sur le même ton de fausset.
« Il a des entreprises nombreuses. Il collectionne les moustaches de chat, les bacs de cigares et bien d'autres curiosités. Je dois à son caractère excentrique d'être possesseur de cette ferme. J'ai un précepteur qui vient tous les matins me donner des leçons. Le reste du temps, je fais ce que je veux. »
Le garçon apprit à Gaspard qu'il aimait cultiver les terres autour de la maison et vaquer à tous les travaux. Il avait pour aide un vieil employé et une servante.
« Le vieux Marval s'occupe de l'économie de la ferme, » dit-il. « Mais je donne la plupart des produits aux gens des environs et je réserve des bois pour qu'ils fassent des coupes selon leurs besoins. Dans une clairière, j'ai fait construire cette année des maisonnettes en bois où sont accueillis tous les jeunes gens qui viennent pour passer des vacances. Ils peuvent rester un mois. Vous verrez demain, si vous le voulez, ceux qui sont là maintenant. Il y a aussi beaucoup de campeurs. Est-ce que vous désirez demeurer quelque temps ici ?»
Gaspard, très intimidé par les déclarations et l'assurance de Théodule, se lança sans réfléchir dans une histoire un peu arrangée. Il dit « À Fumet, je cherchais à avoir des nouvelles d'un ami qui est reparti pour Anvers. »«
Vous allez à Anvers ?»
coupa Théodule. « Je ne veux pas aller à Anvers. »
« Vous vous demandez comment faire ?» pour vous y rendre.
Je ne vais pas à Anvers, dit Gaspard. C'est par hasard.
Je peux vous donner les moyens d'aller là-bas,
reprit Théodule. En réalité, il faut que je rentre à Lominval, dit Gaspard. Je n'ai même pas l'adresse de cet ami.
Je vous donnerai une excellente adresse où vous serez parfaitement reçu,
assura Théodule. Je ne peux pas aller à Anvers, gémit Gaspard.
Je suis content que vous ayez confiance en moi, répondit l'autre. Vous y serez dans 2 jours.
Gaspard regarda de façon si étrange son hôte que celui-ci jugea bon de s'expliquer.
Ma voix aiguë a dû vous étonner. On m'a souvent fait comprendre que j'avais une voix trop aiguë. Je n'y peux rien parce que je suis sourd. Je comprends toutes les paroles d'après les lèvres et d'après certains sons que j'entends malgré tout. Personne ne s'aperçoit que je suis sourd et je dois le dire pour excuser cette voix. En attendant que vous partiez pour Anvers, nous allons faire ensemble une partie de dames. J'aime bien m'amuser aussi.
Théodule Rosidor alla chercher un jeu de dames dans une grande armoire. Il le posa sur la table et regarda Gaspard avec amitié. Enfin, il plaça ses pions. Gaspard, ne voulant pas contrarier son hôte, plaça lui aussi ses pions. Dans quel monde suis-je tombé, songeait Gaspard. Moi, que ma tante vouait à la routine, j'ai été emporté par un cheval pis, envoyé ici par un coiffeur baroque, et voilà que je joue aux dames avec le fils d'un collectionneur de moustaches de chat qui est immensément riche. En outre, ce garçon veut m'envoyer à Anvers. Et par quel moyen, mon Dieu ?
Si vous ne savez pas jouer, ça ne fait rien, dit Théodule. J'aime bien gagner.
À quoi bon répondre, puisqu'il n'entendait à peu près rien, malgré son assurance. Le soir venait. Théodule Rosidor devait être assez avare, malgré sa générosité, car il n'alluma pas l'électricité, et il fallut achever une troisième partie, le nez sur le damier pour distinguer les pions noirs. Après quoi, Théodule Rosidor, satisfait d'avoir gagné, expliqua à son ami dans quelles circonstances il irait à Anvers.
« J'ai là-bas 2 amis. Mon père m'avait emmené en vacances à Temsche,
T-E-M-S-C-H-E,
près d'Anvers, et j'ai fait connaissance un jour de 2 garçons. Nous nous sommes promenés dans une barque et nous étions au milieu de l'Escaut,
E-S-C-A-U-T. C'est le fleuve qui passe en France et qui se jette dans la mer du Nord à Anvers.
Lorsqu'une péniche qui transportait de l'essence a fait explosion. Comment avons-nous été sauvés? Je ne le sais pas. On nous a repêchés à demi-mort. Depuis l'explosion, je suis resté sourd et mes 2 camarades ont gardé aussi un mal. Mais alors, nous avons été comme des frères. Nous ne nous quittions presque jamais. Vous irez les retrouver et ils vous recevront aussi comme un frère.
Ainsi, dans ce monde nouveau pour Gaspard, il y avait des choses terribles et bizarres, certainement, mais aussi une fraternité inconnue. Fin de la première face de la 3e cassette. André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, page 71.